Bonjour à tous, shalom les koulam, shalom shalom Erev Tov les koulam. Voilà, on est en direct, 18h02, et donc on va pouvoir se lancer dans notre shiour hebdomadaire. On attend juste que quelqu'un me fasse signe en régie pour me dire qu'on m'entend et que c'est bon, qu'on peut y aller, et on y va. Donc voilà, que quelqu'un me fasse signe, s'il vous plaît, pour me dire si c'est bon. Et ben voilà, c'est bon, on a reçu le Yishour. Erev Tov donc les Koulam, et voilà, ça y est, on y est. Parashat Roukat. Parashat Roukat. Alors, les deux dernières semaines, je vous ai emmené avec moi faire un petit tour dans l'histoire du peuple juif pour essayer de comprendre quelles ont été les périodes des explorateurs au fur et à mesure des époques, et pour comprendre également, eh bien, ce qu'était le risque de la dissension, de la discorde, au sein du peuple juif dans toutes les générations. La paracha de Roukat, on va pas faire un récapitulatif historique, de la paracha de Roukat, mais on va, oui, se replonger dans une dimension de l'histoire. Paracha de Roukat, c'est la paracha qui marque la fin des géants. Voilà. La paracha Roukat marque la fin des géants. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin des géants? Mais les amis, comprenons bien. La fin des géants, c'est la fin d'une époque. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, car vous comprenez où je veux en venir, dans cette paracha de Roukat, nous allons voir la mort de Myriam, la mort de Aharon, et alors pas la mort de Moshe, mais le moment où Moshe sera officiellement interdit d'accès à Eretz Israël. Donc c'est véritablement la paracha où les géants s'en vont. Mais en vérité, je voudrais qu'on sorte 2 secondes de la paracha. Et sortant de la paracha, je voudrais vous ramener à aujourd'hui. Je voudrais vous ramener à aujourd'hui, avant de retourner dans les versets, parce que j'ai un sentiment, que j'ai déjà partagé avec plusieurs personnes, un sentiment que nous sommes, depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années maximum, en train de vivre également la chute des géants. La chute des géants et qu'il n'y a pas d'autres géants qui prennent la relève. Je m'explique. Pendant 2 générations, on avait des rabbins, des dirigeants du peuple juif qui étaient extraordinaires. Et dès qu'ils partaient, eh bien, leurs élèves leur succédaient et ils étaient tout aussi extraordinaires. J'ai l'impression que dans notre génération, nous voyons des gens énormes partir. Et nous n'avons pas, ben, on va dire, les remplaçants du même niveau. Alors, ce n'est peut-être qu'un avis. En même temps, c'est l'avis qui a été partagé également avec le principal intéressé. L'un des principaux intéressés s'appelait, enfin, s'appelle toujours, le Rav Israël Meir Lao. Le Rav Israël Meir Lao, lorsqu'il succède au Rav Shlomo Goren pour être le grand rabbin d'Israël, eh bien, le Rav Goren lui donne tout le kavod qui est dû au nouveau grand rabbin d'Israël. Et le Rav, là-haut, de répondre, écoutez, c'est un grand jour pour moi, mais un jour assez triste finalement pour le peuple juif. Il dit, c'est un grand jour pour moi parce que ben, je deviens grand rabbin d'Israël, mais c'est un jour un peu triste pour le peuple juif parce que maintenant il va devoir se contenter d'un rabbin de troisième zone alors qu'il avait un rabbin de Ligue des Champions jusqu'à maintenant. Comme pour dire que il ne se sentait pas du tout au niveau du Rav Goren. Je ne suis pas là pour juger. Est-ce que c'était juste une marque de kavod ou est-ce qu'il le ressentait profondément? Moi, personnellement, je me dis que sur ces 20 dernières années, dans tous les milieux du judaïsme, eh bien, on a perdu des géants. Que ce soit dans le milieu séfarade, où on a perdu le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, et je n'ai pas l'impression que le Rav Yitzhak Yosef, son fils, eh bien, est du niveau de son père. Vous allez me dire, il n'a pas le même âge, mais je veux dire, même âge équivalent. De la même façon, le Rav Shmuel Eliyahu, et Dieu sait combien je l'aime, eh bien, il a souvent dit lui-même qu'il n'était pas au niveau de son père et qu'il ne le serait jamais. On a eu la perte de Reb Avroum Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Harav. On a vu également, dans le monde haredi également, le Rav Eliashiv est parti, le Rav Steinman est parti, jusqu'à 120 ans pour le Rav Kanievski, mais bon, il est plus proche de la fin que du début. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait à chaque fois dans tous ces milieux des gens, il y aura des remplaçants, mais ils ne seront pas certainement pas au niveau des pères. Et en fait, eh bien, cette réaction, cette réflexion que j'ai sur le fait qu'on est en train de perdre les géants, eh bien, me ramène à ma paracha. Comment ça se fait qu'on a perdu les géants et qu'on n'en a pas eu d'autres derrière? Quand le Gaon de Vilna est parti, il y avait Reb Chaim de Volozhin. C'est tout aussi extraordinaire. Quand on a eu, je ne sais pas moi, Rashi qui est parti, eh ben on a eu les Tosafot, Rabbeinu Tam est arrivé. C'est bien. Quand on a eu le Baal Shem Tov qui est parti, on a eu le Baal Atania, on a eu Reb Levi Yitzhak Meberditchev. C'est-à-dire qu'il y avait ce remplaçant qui était tout aussi extraordinaire que eh bien, le maître. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie que les rabbins ne sont plus des géants? Qu'est-ce que cela veut dire? Et toute proportion gardée, évidemment que Yehoshua, pour nous, est un géant. Mais quand on le compare à Moshe, à Aaron, Myriam, Moshe, Aaron et Myriam sont ceux qui ont sorti le peuple juif d'Égypte, sont ceux qui ont fait vivre le Ham Israël pendant ces 40 ans de désert. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils s'en vont? Ça va être la question générale de notre étude ce soir, et je rentre directement dans la paracha. La paracha, eh bien, elle a quatre grands événements. Quatre grands événements qu'il va falloir essayer de comprendre comme une, tout simplement, suite logique les uns après les autres. La première événement de la paracha, c'est évidemment l'histoire de la para aduma. Zot chukat haTorah para aduma. La vache rousse. La vache rousse qui va servir à purifier d'un mort, d'un contact avec un mort. Et la question évidemment que nous sommes en droit de nous poser, c'est, va aller double. La première, d'après nos sages, ces versets-là vont être donnés 38 ans auparavant. C'est-à-dire, Dieu va nous enseigner les lois de Para Aduma juste après la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ici, dans la fin du livre de Bamidbar? Ça, c'est la première question. La deuxième, puisque la paracha de Para Aduma est appelée Chok, Zot Chukat haTorah, et que la conscience collective nous dit que Chok, ça veut dire qu'il n'y a rien à comprendre, pourquoi Bichlal, elle est marquée? Si on n'y comprend rien, la Torah, Zemilachon Ora'a, enseignement, s'il n'y a rien à enseigner, s'il n'y a rien à comprendre, alors pourquoi? Oui, je fais des signes bizarres à ma fille pour qu'elle mange son repas du soir. Donc n'ayez pas peur, ce n'est pas pour vous que je fais. C'est pour ça, c'est pour ma fille. Tu manges? Yofi. Et donc, il va falloir répondre à ces deux questions. La première, on a dit, pourquoi est-ce qu'on nous l'enseigne maintenant, alors que cela a été donné bien avant oralement? Eh bien, c'est marqué dans le livre de Bamidbar pour une raison très simple. Et une raison qui va d'ailleurs continuer dans la paracha. À savoir, commence la période sans miracle. Dans la période sans miracle, eh bien, il y a un événement qui est arrivé également avant. Mais je veux dire, dans une période où il y a un dévoilement direct d'Akadosh Baruch Hu, une prophétie continuelle, un miracle permanent, finalement, même la mort n'est pas vraiment importante puisque on est tellement entouré d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans un monde sans miracle, et c'est ce qui va arriver dans notre paracha, il est important de dire que même la mort ne sera jamais la fin du pasouk. Qu'il y a un moyen de retourner à la vie, à la vitalité. Parce que c'est de cela qu'on parle dans la para aduma. On nous dit c'est un choc. D'accord? Donc on a dit on n'a rien à comprendre. C'est faux. C'est complètement faux de dire que les choukim de la Torah, il n'y a rien à en tirer. C'est faux de dire qu'on peut tout comprendre. Eh oui, ça c'est l'apanage des mishpatim. Les mishpatim, on comprend. Mishpat, c'est quelque chose que même les nations sont capables d'y arriver. La preuve, tu ne tueras pas, mais on le retrouve dans plein de nations. Les choukim, c'est pas qu'on n'y comprend rien. C'est que bien qu'on y comprenne plein de choses, il y a quand même des dimensions qui nous échappent. Et c'est important de comprendre ce qu'on peut comprendre et de comprendre qu'il y a des choses qui nous échappent. Prenons un choc bien connu, j'en ai déjà parlé souvent, le chatnez. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Évidemment que pour le 21e siècle, il y a un homme qui s'habille en coton, Il ne comprend pas ce que ça veut vraiment dire. Pourquoi ne pas mélanger le lin et la laine? Mais quand tu entends ça et que tu sors d'Égypte, et que tu as vécu 210 ans dans un univers où ceux qui s'habillent en lin, ce sont les Égyptiens, ceux qui s'habillent en laine, ce sont les Hébreux, puisque le lin pousse le long du Nil, que pour avoir des habits en laine, il faut des troupeaux, et ça, ce sont les Hébreux. Donc, quand tu entends cela et que tu sors d'Égypte, tu dis, ah ben évidemment, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'assimiler. Pas de mélange entre Égyptiens et Hébreux. Donc, on comprend évidemment qu'est-ce que cela veut dire, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout compris. Il en va de même pour notre para Adouma. Il y a plein de choses qu'on peut comprendre. Puisque la para Adouma est là pour nous ramener la vie, eh bien, tous les versets sont centralisés sur la vie. La vie, c'est-à-dire prendre l'animal le plus vivant, le plus gros en contact de l'homme. Vous allez me dire, ben non, c'est pas vrai, la girafe. Ah oui, mais la girafe, mon ami, la girafe, elle n'est pas en contact de l'homme. La girafe, elle n'est pas apprivoisée. Ce n'est pas un animal domestique. Donc, elle n'est pas en contact. Tu ne trames pas avec des girafes. Donc, non, on parle d'un animal qui est Bekirvat à Adam. Vous allez me dire, non, il y a peut-être d'autres animaux qui sont plus gros, plus forts. En Inde, ils travaillent avec des éléphants. Oui, d'accord, mais les éléphants sont des animaux impurs. Le plus gros animal cachère qui est en contact de l'homme, c'est la vache. Alors, tu vois, pas de problème, mais prends le taureau. Ah non, parce que la vache, elle est doublement vivante puisqu'elle deviendra elle aussi une maman. Donc, on veut prendre la puissance de la vitalité. Et on veut que cette vache, elle soit rousse. Alors, rousse, je te rassure, ça ne veut pas dire rouge. C'est les couleurs briques. Pourquoi? Ben parce que c'est la couleur de la vie, la couleur du sang, la couleur de la tava. Vous savez bien que quand on met devant des enfants une assiette avec de la confiture de fraises, de la confiture d'abricot, je peux t'assurer que c'est la confiture de fraises qui va être terminée en premier. Donc, c'est para adouma. Il y a ma fille qui ne veut pas manger. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand sa fille ne veut pas manger et que sa mère n'est pas là pour la nourrir? Shira, viens là. Bekitso, para adouma. Temima. Temima, ça veut dire complètement adouma. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient porter atteinte à cette vitalité. Asheren bamoum, c'est-à-dire qu'il n'y a rien intérieurement parlant qui vient amoindrir ses forces de vie. Que personne ne lui a mis le joug, c'est-à-dire que personne ne lui a amoindri ses forces de vie de l'extérieur. C'est totalement vivant. Et c'est ça qu'on va demander de mélanger à l'eau de vie une fois qu'on l'aura brûlée pour ramener la personne qui a été en contact avec la mort, la ramener à la vie, la ramener à la tahara. Ce qu'on ne comprend pas, donc il y a plein de choses qu'on comprend très bien, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça se fait que le Cohen, qui lui a aspergé tout le monde et qui a rendu tout le monde pur, lui-même est rendu par la présente impur. Ça, on ne comprend pas. Ça, on ne comprend pas comment le même acte peut rendre pur certains et impur d'autres. Donc, ben, mec, que croc, il y a des choses qui nous échappent. C'est ce que dit d'ailleurs Shlomo HaMelech dans Michelet. Il dit à propos de Para Adouma, Amarti Erkama, Veir Echoka Mimeni. J'ai étudié, j'ai compris des choses, mais elle est encore très loin de ma compréhension complète. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous enseigne les Ilchot Para Adouma là maintenant? Eh bien, parce que notre paracha, qui voit la fin des géants, nous dit à nous qui ne sommes plus des géants, c'est pas parce que tu comprends pas que tu ne vas pas faire l'effort d'apprendre. C'est pas parce qu'il y a des choses qui t'échappent que tu vas pouvoir dire non, mais c'est bon, ça, je laisse ça au rabbin. Non. Il faut que tu saches. Il faut que tu comprennes, que tu apprennes. Chut. Il faut que tu comprennes et que tu apprennes. Rabotai, c'est de cela qu'on parle dans notre début de paracha. Le message est lancé de dire à toi de jouer, à toi d'apprendre et de comprendre ce que tu peux comprendre. Vous savez, trop souvent, vous avez des gens qui font des choses et tu leur demandes, mais pourquoi tu fais ça? Le ne peut plus être accepté. Si tu fais quelque chose, tu dois pouvoir m'expliquer au moins à un certain niveau pourquoi tu le fais. Et ne pas te contenter de dire, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi c'est important maintenant que tu prennes tes responsabilités? Eh bien, tout simplement parce que les géants disparaissent. La Torah continue et nous dit que Myriam meurt. J'ai dit, Aaron va également mourir. Myriam, pour l'instant, meurt. C'est la fin des miracles. Vous savez, Aaron, Eh bien, par son mérite, il y avait les nuées protectrices qui ne seront plus là lorsque Aaron partira. Myriam, par son mérite, avait également, eh bien, le puits de Myriam. Myriam s'en va, il n'y a plus. Et comme il n'y a plus, ben, il n'y a plus d'eau. Et comme il n'y a plus d'eau, eh ben, il fait soif. Et les Bnei Israël viennent voir Moshe en disant, on a soif. Est-ce que c'est légitime? Ben, évidemment que oui. Ils ont soif. S'ils ont soif, c'est tout à fait normal de dire, on a soif. C'est un vergamou. Et donc, ils viennent voir Moshe. Et au moment où ils viennent voir Moshe parce qu'ils ont soif, eh bien, Moshe leur dit, top, deux secondes, je vais demander au patron. Et là, arrive une histoire que tout le monde connaît. Une histoire bien connue de nos banlieues. Eh oui, c'est quoi l'histoire? C'est la fameuse histoire du rocher. Je vais m'attarder deux secondes sur cette histoire du rocher, parce qu'elle est fondamentale, bien sûr. Mais je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien accepter et d'admettre deux points. Deux points qui, pour moi, sont évidents. Le premier, c'est que de tout ce qu'on connaît de Moshe Rabbeinu, Moshe, ce n'est pas quelqu'un à qui Dieu dit de faire A et lui, il dit « je m'en fiche, je fais B ». Donc, de me dire que Moshe, il a fauté ici, c'est pas chute l'onachot. Si Moshe, il a fait ce qu'il a fait, c'est que Dieu, il lui avait dit de le faire. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, avant de rentrer dans le texte, c'est qu'il faut se rappeler d'une chose. L'événement de « j'ai pas à boire un rocher, un bâton, boum », ce n'est pas, c'est pas une première dans le peuple juif. Cet événement s'est déjà produit au chapitre 17 du livre de Shemot. On venait de sortir d'Égypte, il n'y avait pas à boire, et à ce moment-là, eh ben, c'est parti, il n'y a pas à boire, tape sur le rocher. Idée, je prends ici le chapitre 17 du livre de Shemot. Hop là, Yudzaïn. Hop là, hop là. Voilà. Perek Yudzaïn, que nous dit la Torah? On nous dit comme ça. Vaïsou koladat vene Israël mimitbar sin le maseyem al piachem vayachanu bilfidim. Ve'en maim lishtot ha'am. Il n'y a pas à boire. Vayarev ha'am im Moshe, vayomrut nulanu maim, venishte, vayomer. Laem Moshe, materivuni madi, matenasunet Hashem. Vayitzma sham ha'am la maim, vayalen ha'am al Moshe, vayomer, lama ze litonu meretz mitzrayim la'amit otanu ve'et banai ve'et miknai batzama. Vayitzak Moshe el Hashem lemor, ma'isolam azeod me'atul skanuni. Ils ont soif, ils viennent voir Moshe, ils disent « Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte ? On n'a rien à boire. » Et Moshe, il dit « Je ne sais pas quoi faire. » À ce moment-là, réponse de Dieu, « Yomer Hashem el Moshe, avor lifnei ha'am vekach itra mizikne Yisrael umatecha asher kita bo et ayehor kach beyadecha vahalakta. » Rassemble tout le monde, prends ton bâton et vas-y. « Neni omed lefanecha sham ala tzur bechorev veikita batzur. » ויצאו ממנו מים ושתה העם, ויעש כן משה לעין לזקני ישראל, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. Nous sommes à la fin de la parashat Beshalach, et à ce moment-là, ben voilà, עם ישראל a eu soif, Dieu a dit à Moshe, il y a un rocher, tu prends le bâton, tu tapes sur le rocher, il y aura de l'eau. Et tout le monde était content à ce moment-là, ça a dérangé personne. Nous voici maintenant 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, nous sommes dans la même configuration. Le peuple n'a plus rien à boire. Le puits de Myriam n'est plus là. Ils vont donc voir Moshe en disant bah, « Donne-nous à boire. » Et maintenant, les portes. Les portes, Emouna. Et donc, Moshe va devoir gérer la situation. Comme à l'accoutumée, il vient voir Dieu et lui dit « Tov, nous, maosim !» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Réponse d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes au chapitre 20, Kaf, du livre de Bamidbar. « Va'yavo b'nei Israël, kol ha'eda midbar tzin, b'chodesh ha'rishon, v'yeshev ha'am b'kadesh, v'tamot sham Myriam, v'tikaver sham. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ממשה, לממו, וירב העם ממשה, ואמרו למור, ולו גבנו בגבעכנו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו בעירנו, ולמה הניתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומה אם אין לשתות? C'est vrai qu'ils reprennent beaucoup de choses de ce que les premiers ont dit il y a 38 ans, mais ils rajoutent quelque chose. Ils disent, hey, là où on est, ce n'est pas un endroit où coule le lait et le miel. C'est-à-dire qu'ils font référence à Eretz Israël. Ils disent, tu nous as dit que tu nous emmenais là-bas. On n'y est pas. Donc, qu'est-ce que tu nous donnes maintenant? On a soif. Nous. Vayavo Moshe v'Aaron mipena akal el petach el moed v'alipelu el peneim v'ayar kevod Hashem aleim. Et là, Dieu va se révéler à Moshe et à Aaron et va leur dire quoi faire. Ce sont les versets qui nous intéressent. Vaydaber Hashem el Moshe lemor. Kach et amate. Prends ton bâton. Je précise que ce bâton n'est pas sa main bâton qu'il a ramassé par terre, c'est son bâton. Que depuis 40 ans, à chaque fois que Moshe prend son bâton et fait quelque chose avec, c'est un miracle. Donc à chaque fois qu'on lui dit de prendre le bâton, c'est pour faire un miracle, depuis 40 ans. Et là, Dieu lui dit, Kachet Amate. Dans la tête de Moshe, ça ressemble non seulement à ce qui s'est passé à 38 ans, mais en plus, bah ok, le bâton, c'est pour faire des miracles. Sauf qu'il y a marqué, bah, quel est ta hada, ta varon, achicha, somme tout le monde, vedibartem el asela. Vedibartem el asela. Vous parlerez au rocher. Alors pourquoi j'ai besoin du bâton? Si je dois parler, j'ai pas besoin du bâton. Venatan meimav. Et le rocher va donner ses eaux. Ok. Verset d'après. Veotseta laemaim. C'est-à-dire que c'est toi qui vas la faire sortir de là. Je comprends pas rien. Qui donne à boire? C'est le rocher qui donne de l'eau ou c'est Moshe? Et il utilise le bâton ou il n'utilise pas le bâton? Ma korepo. Eh bien, pour moi, et si j'en suis l'explication de Manitou, qui vient d'avoir, et oui, c'est une grande, on l'a pas dit, mais Midrashet Yehuda, je veux dire, c'est au nom de Yehuda, Ashkenazi, Manitou, on vient quand même aujourd'hui, et bon Hashem Olam, on vient de découvrir la rue Manitou. Ah, c'est pas rien. Ça y est, la rue Manitou a été dévoilée à Achoma. Ze Gadol. Ah, ze lo stam. Yom Gadol. Le Rabbeinu Agadol. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Bekitsour, si on en suit et on en croit ce que nous dit Manitou, eh bien, il va nous dire la chose suivante. Il est évident que non, Moshe n'a pas transgressé l'enseignement de Dieu. Dieu lui aurait dit, tu parles au rocher, et lui, il a dit, moi, je m'en fous, j'ai pas envie de parler, je tape. L'omatim. L'omatim, évidemment que l'omatim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, en fait, Akadosh Baruch Hu a fait une proposition à Moshe. Une proposition de deux options. Tu choisis, Moshe. Tu as deux options. Soit tu prends le bâton et donc tu tapes et tu leur fais sortir de l'eau. Soit tu parles et c'est le rocher qui donne de l'eau. Tu choisis. Les deux options sont bonnes. Les deux options sont bonnes. D'ailleurs, comment je sais que les deux options sont bonnes? Parce que ça a marché. Moshe, il a pris le bâton, il a tapé. Si Dieu, il voulait pas, ça n'aurait pas marché. En bataille. Je vous rappelle que moi, j'ai déjà tapé sur plein de rochers avec des bâtons. Hein. Il n'y a jamais de l'eau qui est sortie. Ce qui veut dire que si l'eau, elle est sortie, c'est que Dieu, il voulait que l'eau, elle sorte. En tapant sur le rocher. Donc, Moshe a choisi l'option, tu prends le bâton, et tu tapes sur le rocher. Les amis, je viens de me faire mettre dehors par les membres de ma famille. Je vais donc prendre l'ordinateur et partir dans une autre pièce pour essayer de continuer le cours, car il y a 5 autres personnes dans la pièce qui en ont marre d'être en mode silence. Alors, j'espère que tout ira bien au niveau connexion. Attention, petite Ioul dans ma maison. Vous avez l'habitude maintenant, depuis le cours là, vous connaissez très bien ma maison. Voilà, c'est parti. Hop là. C'est parti. Et voilà. En espérant qu'ici, ça sera mieux. Quoi qu'il en soit, donc, on a dit Moshe, ce n'est pas quelqu'un qui désobéit. Dieu lui donne 2 options. 2 options, c'est à toi de choisir. Moshe, donc, choisit, bah, tu prends le bâton et tu tapes. Et Dieu lui répond, parce que ça marche, à la fin de l'histoire, Dieu lui dit, Tov, besada, va yomer Hashem el Moshe vel Aaron, yad lo emantem bi lakdisheni leine bene Israel, lachen, lo taviu et hakal haze el haaretz asher natati lehem. Hier soir, j'ai été prié mincha quelque part, et le rabbin qui a fait un mini dvar Torah entre mincha et ervit, mamash, une minute et demie de dvar Torah, il est revenu sur cet événement et il a dit quelque chose qui m'a profondément irrité, parce qu'il dit, bon, il y a beaucoup de commentateurs quand on parle de cette histoire du bâton, du rocher, machin. Attendez, pourquoi il a été puni 2 secondes, l'athlète. Ça a profondément irrité, pourquoi? Parce qu'il disait, il faut s'en revenir au pshat. C'est-à-dire que tous les commentateurs, ils essayent d'expliquer pourquoi et où Moshe il a fauté, mais on en oublie ce qui a marqué dans le texte. Dans le texte, il y a marqué, « Lo emantem bilak disheni leine bene Israël ». Et ce rabbin a dit, ça veut dire que Moshe avait l'occasion de faire Kiddush Hashem et il ne l'a pas fait. Alors d'abord, c'est de taper sur le rocher, il y a de l'eau qui sort. Franchement, explique-moi en quoi c'est moi un Kiddush Hashem. Je te rappelle que le choix des 2 options n'a pas été donné devant tout le peuple juif. Donc les juifs, ils ne savent pas que Dieu lui a dit où tu parles, où tu tapes. Donc le fait que Moshe il tape et que ça marche, c'est un miracle. Donc c'est un Kiddush Hashem. Mais t'en mérites, mais c'est un chliot. Donc il va falloir essayer de comprendre. Le verset, il dit vraiment, Yan lo emantem bi lakdisheni leine bene Israël, lachen lo taviu et hakaal haze, el haaretz asher natati lahem. Et là, maintenant, il va falloir comprendre de quoi il s'agit. Moshe, depuis 40 ans, c'est lui qui fait tout. Depuis 40 ans, c'est le guide des bene Israël, c'est lui qui fait tout. Pourquoi c'est lui qui fait tout? Pachout. Parce que quand on est sorti d'Égypte, le peuple juif était un peuple de bébés, incapable de faire quoi que ce soit tout seul, incapable de se gérer tout seul. Il fallait donc que Moshe soit la personne qui fasse tout. En malahasot. La question maintenant posée par Dieu dans le choix qu'il donne à Moshe, c'est de savoir, Moshe, est-ce que tu as compris qu'il ne s'agit plus du même peuple? Est-ce que tu as compris que Am Israël a changé? Le Am Israël qui est sorti d'Égypte, il avait besoin que tu fasses tout. Donc c'est pour ça que quand ils ont eu soif, je t'ai dit, tu prends le bâton, tu tapes sur le rocher et tu fais sortir de l'eau. Pas de problème. Mon cher Abeno, tu comprends que Am Israël d'aujourd'hui, c'est pas le même. Le peuple juif qui se tient là maintenant devant Moshe dans Parashat Roukat, c'est le peuple qui est soit né dans le désert, soit qui a grandi dans le désert, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment vécu l'esclavage. C'est un peuple d'hommes libres. Je vais fermer la porte. Je vois que ce soir, c'est open bar dans ma maison. C'est reparti. Vous allez voir qu'après, c'est moi qui vais me faire disputer que je fais un cours au moment où il faut donner à manger aux enfants. Mal à la saute. Quoi qu'il en soit, mon cher Abeno, est-ce que tu comprends que ce n'est pas le même peuple? Que ce peuple actuel, là devant toi, c'est un peuple d'hommes libres, un peuple qui est capable de prendre ses responsabilités. C'est le peuple qui va rentrer en Israël, qui va conquérir la terre d'Israël. Il est donc temps que tu passes au deuxième étage, à la deuxième étape de Chinour. Les enfants, au début, dans la première partie de leur vie, c'est toi qui leur fais la douche. Ben oui, parce que tu es le parent et qu'ils ne savent pas faire tout seul. Jusqu'à leurs 3-4 ans, ils ne savent pas faire la douche tout seul. Donc c'est à toi de leur faire la douche. Nakhon, c'est toi qui fais la douche. Tic-tac. Et puis arrive un moment où ils doivent commencer à apprendre à la faire tout seul. Et il y a un moment où ils la feront tout seul. Dans le moment où ils doivent apprendre à la faire tout seul, tu es encore là. Tu es dans la salle de bain, mais tu leur expliques. Voilà, tu mets, voilà, oui, c'est bien, le pommeau de douche comme ça c'est le shampoing, ça c'est le savon, on n'oublie pas de frotter partout, nanana, nanana. Parfait. Non, dis-moi, en vrai, toi, le gosse, il a 5 ans, tu veux lui apprendre à faire la douche. Quand il a fini la douche, si la pipe tout aurait été propre, tic-tac, et alors on n'en parle plus. Voilà. On n'en parle plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Allez, je fais la douche moi. Ça sera plus rapide, ça sera mieux fait. On n'en parle plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Allez, je fais la douche moi. Ça sera plus rapide, ça sera mieux fait. Et en fait, on est dans la même situation. Moshe, quand il fait les choses, c'est bien fait, c'est rapide, c'est tic-tac. Nahon, mais Moshe, il est temps que tu comprennes une chose. À qui la terre d'Israël a été promise? Elle a été promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov pour être donnée à leurs descendants, c'est-à-dire à Israël. À Israël est comparé aux étoiles du ciel. Dans la Brit Ben Betharim, dans les Midrashim, ce sont les étoiles du ciel. En fait, Moshe, dans la Gemara, dans le traité de Baba Batra, le Talmud nous explique que Moshe est comparé au soleil. Regardez. Où sont les étoiles? Où sont les étoiles? Elles sont là. Elles sont là, les étoiles. Mais on ne les voit pas. Lama, soleil. Le soleil est trop grand, trop fort, trop puissant. Il masque tout. Ouais, mais ça ramène quand même plus de chaleur, de lumière et de tout que les étoiles. Nahon. Nahon, Moshe, c'est mieux. Zénachon. Avalen Malahasot. La terre d'Israël n'a pas été promise à Moshe. Elle a été promise aux étoiles. C'est exactement de cela qu'on parle. La reine, Dieu, il dit à Moshe, tu as choisi de taper? Pas de problème. Ce n'est pas une punition. Yann Loemantembi Bene Israël. Eze, celui-là. Quand tu as fait le coup du bâton il y a 38 ans, c'était Kiddush Hashem Gadol. T'as tapé, c'était génial. Avalayom. Lachen lotavio et takal hazeh el haaretz. Puisque tu as décidé de taper, c'est que tu ne comprends pas quelle est la dimension de ce peuple-là. Ce peuple-là, eh bien, si toi tu penses qu'il faut que tu sois encore celui qui fait tout, tu ne peux pas les accompagner. Tu sais pourquoi tu ne peux pas les accompagner? Parce que si tu rentres avec eux en Israël, que tu le veuilles ou pas, c'est toi qui vas tout faire. Hé, hey, tu ne vas pas les laisser. Et tu sais quoi? Eux non plus, ils n'auront pas le cran de dire non, c'est bon, Moshe, nous on fait. Parce que tu es Moshe. La reine est à Kaalazé, à Temlot Aviou. Vous ne pouvez pas emmener ce peuple-là. C'est Yehoshua qui va te succéder. Dans cette même Gemara de Masoret Baba Batra, on dit que Yehoshua, il est comparé à la lune. Le soir, la lune, on voit que c'est le chef. On voit qu'il est plus grand que les autres étoiles. Mais il laisse sa place à toutes les étoiles également. Ce n'est évidemment pas une punition pour Moshe. Car Moshe, il ne fait pas de faute. C'est une conséquence. Puisque tu penses que c'est encore à toi d'agir, tu ne peux pas les accompagner. Qu'est-ce qui aurait changé si tu avais parlé? Si tu avais parlé au rocher, tu aurais vu montrer à tout le monde que certes, tu es encore là pour donner des directives, mais que c'est quelqu'un d'autre qui bosse. Le rocher, en l'occurrence. Qui aurait montré au Bnei Israël que bien sûr qu'ils ont besoin de Tef, mais ils ont besoin d'être capables de faire également. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur dire comment faire, quoi faire. Mais au final, il faut les laisser faire. Combien de fois on a eu un enfant qui n'allait pas au GAN et qui a dit à sa mère, je veux t'aider à faire Shabbat. Et que c'était justement le Shabbat le plus court de l'année et on avait 25 personnes à la maison. Et que tu étais complètement stressé par le temps. Mais que tu avais le nounou qui était à la maison et qui disait, maman, moi aussi, je vais faire, moi aussi, je vais faire, moi aussi, je vais faire. C'est sûr que le plus facile, c'est de lui dire, écoute, prends le téléphone, là, va jouer, et moi, je m'en occupe. Ça sera bien fait, mieux fait, vite fait, comme il faut. Alors que si tu lui donnes à lui de faire, il vaut mieux que tu prépares un plan B de la charcuterie, parce que il y aura des problèmes. Aval, au niveau du chinour, il est évident que c'est mieux de le laisser faire et de faire des erreurs pour qu'il apprenne. Notre paracha, on a dit, c'est le moment où les géants s'en vont. Puisque les géants s'en vont, il est temps de prendre ses responsabilités, toi qui n'es pas géant. Au boulot, mon ami. Oui, oui, ça sera mieux fait si c'est Aaron qui fait, si c'est Myriam qui fait, si c'est Moshe qui fait. Aval, dai, maintenant c'est à toi de jouer. Agdolim, les géants s'en vont et il n'y a pas d'autres géants qui viennent et qui leur succèdent. Je me rappelle que lorsque Reb Avroum est parti, j'ai été demandé à mon rave, le Rav Cherki, je lui ai dit ce que je vous ai dit, que j'ai l'impression que les grands s'en vont et qu'il n'y a plus de géants derrière. Il m'a dit, Nachon, Tatsodek, tu as raison, mais il était temps, c'est Tov. Je lui ai dit, pourquoi c'est Tov? Il m'a expliqué, mais parce qu'en fait, il faut que tu vois la Torah comme étant une espèce de... Il y a une quantité de Torah qu'il doit y avoir constamment dans le monde. Imagine-toi ça. Et à l'époque de Rabbeinu Tam, 98% des Juifs, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, c'est Bourba Maharet, ils ne connaissent rien à la Torah. Donc, puisque les Juifs ne connaissent rien à la Torah et qu'il faut qu'il y ait une quantité de Torah donnée dans le monde, eh bien, toute la Torah, elle se trouve chez Rabbeinu Tam, chez Rabbin, Rashi, Lomshané. Et donc, tu as des gens qui sont des géants de chez les géants, que jamais tu pourras avoir ça. Je dis, mais aujourd'hui, le fait que les rabbins soient moins grands, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de Torah. C'est juste que la balance, elle est beaucoup plus équilibrée entre les guides, les rabbanim et Am Israël. Am Israël a beaucoup plus de Torah aujourd'hui. Et donc, d'une époque où on était comme ça, le géant, il était là, Am Israël, il était là. Allez, il y a 1000 ans, on était à ça. Il y a 500 ans, on était comme ça. Et aujourd'hui, on est comme ça. C'est vrai que le rabbin, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus de Kdoucha que moi. Aval d'abord tellement beaucoup plus, parce que Am Israël a montré sa grandeur. Et le fait qu'il soit plus haut que moi, mais pas trop, fait que moi aussi, j'ai quelque chose à apporter. Je parle de moi en tant que moi, Ethan Fison, mais en tant que vous également. Am Israël a également quelque chose. Il ne doit plus uniquement se reposer sur le rabbin, sur le tzaddik. Je me souviens, l'année dernière, c'était vraiment l'année dernière, août dernier, fin août, il y a eu un très grand rassemblement de rabbanim, d'une quarantaine de rabbanim francophones dans un hôtel dans le nord d'Israël pour commencer. C'est la première fois qu'on réunissait les rabbanim sionistes francophones dans un seul endroit, un Shabbat entier, pour parler de l'Alia française, pour parler des Juifs de France, pour parler de ce qu'on a apporté. Et donc, il y avait toutes les pointures. Hein. Il y avait le Rav Cherki, le Rav Ben Ishai, le Rav... Enfin, tous les grands rabbanim, le Rav Ben Arosh, tous les grands rabbanim francophones, ils étaient tous là. Il y en a qui n'ont pas pu venir, mais qui étaient invités également, et ainsi de suite. Bon, il y avait vraiment tout ce qu'on peut trouver de rabbanim francophone. Il y avait le Rav Shmuel Eliaou, qui n'est pas francophone, mais qui était l'invité d'honneur. OK. Je me souviens que j'ai eu un problème à aller à ce Shabbat. J'étais invité aussi et j'avais dans ma communauté un Shabbat Shiva Brachot du fils d'un bon ami de la communauté. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Aller au Shabbat des rabbins ou aller au Shabbat Shiva Brachot. J'ai demandé au Rav Cherki ce qu'il en pensait. Il m'a dit que tu as été au mariage, tu as été au Shabbat d'avant le mariage. Dis à ce monsieur, ton ami, que elle m'a la saute. Tu dois venir au Shabbat. Moi, j'ai dit que tu dois venir au Shabbat des rabbins. Bon, j'ai dit, OK, mais pourquoi, si je peux me permettre? Vous n'avez pas besoin de moi à ce Shabbat. Et là, le Rav Cherki m'a dit, effectivement, s'il s'agit de faire un Dvar Torah, on n'a pas besoin de toi. Il y a plein d'autres rabbins avec des plus grandes barbes qui connaissent mieux la Torah que toi, qui peuvent faire des Divrei Torah. Aval, le problème, c'est qu'on est venu se réunir pour parler de l'Alia française, des Juifs de France. Et là, en l'occurrence, eh ben, nous, les rabbins avec les grandes barbes, on ne les connaît pas beaucoup, les Juifs de France. Ça fait tellement longtemps qu'on est déconnectés. Toi, tu les vois au quotidien, dans les groupes, machin, tu les connais, les Juifs de France. Donc, tu vas venir au Shabbat et tu vas nous dire à nous, les grands rabbins, qui sont plus forts que toi en Torah, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à un public qu'on ne connaît pas du tout. En d'autres termes, tu as toi aussi quelque chose à apporter. Et moi, oui, mais toi aussi. Toi qui me regardes là maintenant, tu as aussi quelque chose à apporter. Cette définition qui n'est pas de moi, que dans notre génération, nous sommes des nains sur des épaules de géants. C'est exactement de cela qu'on parle. On est des nains. Ben, vadaï. Mais on est sur des épaules de géants. Ce qui fait qu'au final, on est plus grand que les géants. La suite de la paracha, une fois que Moshe ne rentre pas en Israël, et que donc, maintenant, ben, les commandes sont données au peuple juif, ben, pas de problème. Le peuple juif comprend cela et commence tout simplement l'ère des guerres. L'ère des guerres. Mais avant ça, parce que bon, on va pas s'arrêter là, hein, évidemment. L'ère des guerres. Et dans ces guerres que le Ham Israël va mettre en place, avec Moshe. Mais l'ère des guerres montre que ça y est, ce n'est plus les guerres de l'époque de Amalek, où c'est Yehoshua qui fait la guerre et Moshe qui a les mains levées vers le ciel et c'est miraculeux. Là, c'est Ham Israël qui fait la guerre. Qui fait la guerre contre Kenani Melech Aral, contre Edom, contre Sichon, Ve'og. D'ailleurs, à tel point qu'il y aura une chanson dans notre paracha, vous savez, comme la Shirat Hayam. Seulement dans la Shirat Hayam, il y a marqué Az Yashir Moshe. Ou venez Israël. Et oui, celui qui fait tout, c'est Moshe. Celui qui chante, c'est Moshe. Bon, les venez Israël, ils ont fredonné avec lui. Ah ben, c'est Moshe. Ici, dans la Shira de Sefer Bamidbar, on nous dit Az Yashir Israël. Et ta Shira Azot et libère et nous là. Ça y est, Am Israël commence à prendre ses responsabilités. Et donc, puisqu'il commence à prendre ses responsabilités, alors il ne reste plus qu'une seule chose à dire. Eh bien, les Bnei Israël viennent voir Moshe et lui dit Tov, 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 Tov. Moshe, on en a marre. C'est, autant pour moi, je viens de. C'est ma faute, c'est ça pour ça qu'il faut toujours avoir le texte devant les yeux parce que je viens de m'embrouiller. Ce que j'ai dit sur les guerres, en fait, ça vient après ce que je vais vous dire maintenant. D'accord? Voilà, tu vois l'intelligence du mec. Donc, non, ce que j'ai dit sur les guerres, c'est sur la paracha. Juste avant les guerres, donc au moment où Bidiouk, on a compris qu'il fallait prendre nos responsabilités, eh bien c'est ce que les Bnei Israël font et ils disent Tov, on a compris, c'est à nous maintenant de faire, et donc, eh bien on en a marre de la manne. En d'autres termes, on en a marre des miracles. On en a marre d'une vie miraculeuse. On a compris que c'était à nous de relever le défi. Yalla Nim aslanu, nafshenu katsa ma'alechem aklokel. Et donc, ils ne veulent plus la manne. Qu'est-ce que Dieu y fait? Pas de problème. Ah, vous ne voulez plus la manne? Vous ne voulez plus les miracles? Metsuyan. Vaishalach Hashem et anechashim aserafim. Mazé vaishalach Hashem et anechashim aserafim. Eh bien, nous dire à Bitzadok à Kohen Beloublin, en fait, c'est exactement comme vaishalach Noach et Ayona. Il a ouvert la boîte. Il a ouvert l'arche de Noé. La colombe, elle est partie. Là, c'est pareil. Il dit, Dieu, il dit, ah bon, vous voulez plus les miracles? Pas de problème, j'ouvre les portes, j'ouvre la Anané Kavod. Eh ben, dans le désert, il y a des Nechashim, c'est comme ça, ça s'appelle la nature. Et Am Israël tombe. Et il n'en peut plus. Ah! C'est normal. Mais c'est tout à fait normal qu'il tombe. Quand tu viens de commencer à prendre tes responsabilités et à faire les choses, c'est normal que le premier coup, ça ne soit pas bien fait. Zetov! Zetov Meod! Que tu es demandé à le faire alors que tu n'étais pas prêt. C'est comme ça qu'on apprend. À ce moment-là, Moshe, il va voir Dieu et Dieu lui dit, tu sais quoi? Asel echa saraf, vesim oto al nes. Et Moshe, il dit, cette fois, j'ai compris. Je vais pas leur faire un truc miraculeux. Dieu leur a dit, Dieu a dit à Moshe, asel echa saraf. Mais Moshe, il fait pas un saraf, il fait un nachash. Il fait un nachash et il le met sur un grand bâton, le serpent de cuivre. Et lorsque les Bnei Israël le voyaient, alors ils étaient guéris. La Mishnah demandera « Vachi nachash memit, nachash mechaye » Quoi, c'est magique? La réponse est évidemment que non. « Elak shayoum estaklim klapema la omisha abdim et libam la aviem shebashamayim ayoumit rapim » C'est-à-dire, il voyait le serpent, et en voyant le serpent, qu'est-ce qu'il comprenait? qu'ils ont été attaqués par des serpents et que le moyen de s'en sortir, c'est grâce aux serpents. Bon, je ne sais pas s'ils avaient fait l'Institut Pasteur tous, qu'ils ont compris que pour guérir d'une morsure de serpent, il faut un sérum de serpent. Du même serpent d'ailleurs. Mais ils ont compris que si tu veux pouvoir faire face à la Teva, il faut utiliser les armes de la Teva. Sans jamais oublier de regarder vers le ciel. Que celui qui te donne la force d'utiliser les armes de la Teva, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, une fois qu'ils ont compris cela, ils sont prêts, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, à arriver dans l'histoire des guerres, dans l'ère des guerres, dans l'ère où c'est eux, Am Israël, pour l'instant accompagnés de Moshe, mais très bientôt sans Moshe, qui vont être capables de conquérir la terre d'Israël et de montrer qu'ils sont capables de relever le défi. Ils auront un chef, Yahushua, qui ne les masquera pas et qui sera tout à fait capable de leur laisser la place pour qu'effectivement, Am Israël réussisse à devenir ce que Dieu a promis dans cette promesse qu'il avait faite à Abraham à l'époque, lorsqu'il lui a dit « Eh bien, sache que je vais prendre ton peuple et ta descendance et que je leur donnerai la terre d'Israël. » Notre paracha de Choukat est la première paracha où Am Israël commence à se comporter comme tel. Évidemment, ce n'est qu'un début. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des problèmes, il y a encore des erreurs. Il en va de même dans notre génération. Dans notre génération, eh bien, pendant 2000 ans, on a eu besoin de géants. On a eu besoin de géants parce qu'on était en exil, on n'y connaissait pas grand-chose et il nous fallait des gens qui étaient tellement hauts qu'ils pouvaient nous garder la tête hors de l'eau. On était tellement amok, bamaim, qu'il fallait des géants pour avoir la tête hors de l'eau. Et puis petit à petit, quand Am Israël, c'était le moment pour lui de reprendre sa place, les géants ont diminué et sont devenus juste des très très grands. Et puis après, ils ont diminué, ils sont devenus juste des très grands. Parce qu'en filigrane, de l'autre côté, Am Israël montait. Et aujourd'hui, nos rabbanim, excusez-moi, mais ne sont plus que des grands. Mais des grands, par rapport à nous, ils sont plus grands que nous, il n'y a aucun problème. Et je ne serai pas du tout en train d'essayer de dire qu'on les vaut. On ne les vaut pas. Nos rabbanim, c'est nos rabbanim, et ils sont beaucoup plus grands que nous. Mais on a la chance qu'ils soient moins grands que ceux d'avant. C'est une chance. Parce que ça veut dire d'un côté que nous sommes plus grands également. Et ça veut dire également qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Et que leur enseignement peut rentrer beaucoup plus profondément et de manière beaucoup plus générale. Il y a deux rabbins qui ont participé au même événement à peu près 120 ans d'écart. L'un a été complètement retourné, chamboulé, émerveillé par l'événement et en a émerveillé à peu près 4-5 par son action. Et il y en a un autre qui a émerveillé des milliers au vu des vues Facebook. Il y a à peu près 120 ans, le Rav Kook est invité à inaugurer un nouveau chant. Si je ne me trompe pas, à Rosh Pina, si je ne me trompe pas. Mais ne me prenez pas au mot, c'est peut-être ailleurs. Et le Rav Kook arrive pour inaugurer le nouveau champ de vigne qu'on va faire à Rosh Pina ou ailleurs, comme Chané, je ne m'en rappelle plus. Et quand il arrive, on lui donne une pelle, machin, pour creuser un sillon. Il dit non. Et il va creuser avec ses mains et il va planter la vigne de ses propres mains. Et il pleure à chaque sillon qu'il fait, à chaque terre qu'il enlève. Il est en larmes, mais des larmes de joie et de gdoucha. Il dit mais quelle sroute de pouvoir tout simplement, eh bien, de pouvoir planter une vigne dans la terre d'Israël, c'est extraordinaire. Il y a 3 jours, le Rav Shmuel Eliyahu, Rosh Chodesh Tamuz, dans le village de Yitzhar, a planté une nouvelle vigne. Ça a été filmé, retransmis sur les réseaux sociaux, et il a expliqué cette histoire du Rav Kook qui était émerveillé, machin, mais combien connaissait cette histoire? Personne. Et il dit, aujourd'hui, je ne suis pas le Rav Kook, et certainement pas à son niveau. Mais nous participons ensemble, et on voit plein de jeunes à côté de lui qui plantent également. Nous participons ensemble au tikkun de Chet HaMeraglim. Les explorateurs sont partis pour la terre d'Israël, le Rosh Chodesh Tammuz. Et nos sages nous disent qu'ils avaient déjà l'intention de faire le Lashon Hara qu'ils ont fait. Résultat des courses, ils sont partis Rosh Chodesh Tammuz pour dire du mal de la terre d'Israël. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Tammuz, nous plantons des vignes dans la terre d'Israël. Et le Rav Shmuel disant, avec Zeloraka Ani, Zegamatem. Et je me souviendrai toujours, et je terminerai par là, que lors d'un de mes groupes, à l'époque, il n'y avait pas le corona, il y avait plein de groupes, et bien à l'époque d'un de mes groupes, on a terminé notre groupe à Tzfat. C'était le dernier jour du voyage, c'était à Tzfat. Et on a réussi à faire venir sur le groupe le Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat. Et donc, on pensait qu'il allait venir 5 minutes comme ça pour faire une bracha vite fait. Pas du tout, il est resté toute la soirée. Il a mangé avec nous, il a ri avec nous. Et à la fin de la soirée, il a fait un petit vartora. Je devais traduire, évidemment. Il parle en hébreu, je devais traduire en français. Et à la fin, il a dit, bon, je sais que vous voulez que je vous fasse une bracha. Vous voulez une bracha? Et tout le monde a dit, ouais, ouais. Et le Rav Shmuel a dit, la vérité, c'est que, bon, je peux vous faire une bracha, c'est pas mal, tu vois, mais c'est sûr que c'est pas le niveau des brachot de mon père. Ah, mon père, quand il faisait des brachot, c'était autre chose. Mais j'ai mieux qu'une bracha de moi. Car moi, je ne suis qu'un enfant d'Abraham. Et vous aussi, vous êtes des enfants d'Abraham. Or, Abraham a reçu la mérite. Le mérite sera Mevarechecha Baruch, qu'il a la capacité de lui aussi donner des brachot, et c'est une capacité qu'il a donnée à ses descendants. Et le Rav Shmuel nous dit, donc nous sommes tous des enfants d'Abraham. Donc au boulot. Que chaque garçon mette la main droite sur la tête du garçon à droite de lui. Que chaque fille mette la main droite sur la tête de la fille à droite d'elle. Et on va se bénir. Chacun d'entre nous, on va se bénir. Bon, c'est moi qui avais la main du Rav sur ma tête. Mais on va se bénir parce que on peut le faire. Il est temps de comprendre que notre génération a de quoi tout à fait eh bien, amener la Kedusha dans ce monde. Yann lo eman tembi le akdisheni le edeb en Israël, c'est absolument pas que Moshe n'a pas fait le Kiddush Hashem. C'est que Moshe n'a pas fait le Kiddush Hashem adéquat à cette génération-là. La génération qui doit construire, eh bien, on doit lui dire que ça y est, il est temps de construire. Dans notre génération, ça y est, c'est à nous de construire. C'est à nous de bosser. C'est à nous de faire en sorte de transformer ce que nos géants nous ont légué. Ils nous ont légué une villa. C'est à nous d'en faire un véritable Gan Eden. La paracha de Choukat est la paracha où Am Israël, enfin, est prêt à en découdre. C'est pour ça que, puisqu'il est prêt à en découdre, eh bien, on peut lui amener dans la paracha de la semaine prochaine. Eh bien, une bonne dose d'antisémitisme à l'ancienne, et on va voir à ce moment-là comment ce Am Israël va être capable de sortir de ce problème-là. Mais ça, on verra la semaine prochaine. À bientôt, Shabbat Shalom.